Sur la lecture, 3. Sans doute, l'amitié qui a égard aux individus, est une chose frivole, et la lecture est une amitié. Mais du moins, c'est une amitié sincère, et le fait qu'elle s'adresse à un mort, à un absent, lui donne quelque chose de désintéressé, de presque touchant. C'est de plus une amitié débarrassée de tout ce qui fait la laideur des autres. Comme nous ne sommes tous, nous les vivants, que des morts qui ne sont pas encore entrés en fonction, toutes ces politesses, toutes ces salutations dans le vestibule que nous appelons déférence, gratitude, dévouement, et où nous mêlons tant de mensonges, sont stériles et fatigantes. De plus, dès les premières relations de sympathie, d'admiration, de reconnaissance, les premières paroles que nous prononçons, les premières lettres que nous écrivons, tissent autour de nous les premiers fils d'une toile d'habitude, d'une véritable manière d'être, dont nous ne pouvons plus nous débarrasser dans les amitiés suivantes. Sans compter que, pendant ce temps-là, les paroles excessives que nous avons prononcées restent comme des lettres de change que nous devons payer, ou que nous paierons plus cher encore, toute notre vie, des remords de les avoir laissés protester. Dans la lecture, l'amitié est soudain ramenée à sa pureté première. Avec les livres, pas d'amabilité. Ces amis-là, si nous passons la soirée avec eux, c'est vraiment que nous en avons envie. Eux, du moins, nous ne les quittons souvent qu'à regret. Et quand nous les avons quittés, aucune de ces pensées qui gâtent l'amitié. Qu'ont-ils pensé de nous? N'avons-nous pas manqué de tact? Avons-nous plu? Et la peur d'être oublié pour tel autre. Toutes ces agitations de l'amitié expirent au seuil de cette amitié pure et calme qu'est la lecture. Pas de déférence non plus. Nous ne rions de ce que dit Molière que dans la mesure exacte où nous le trouvons drôle. Quand il nous ennuie, nous n'avons pas peur d'avoir l'air ennuyé. Et quand nous avons décidément assez d'être avec lui, nous le remettons à sa place aussi brusquement que s'il n'avait ni génie ni célébrité. L'atmosphère de cette pure amitié est le silence, plus pur que la parole. Car nous parlons pour les autres, mais nous nous taisons par nous-mêmes. Aussi, le silence ne porte pas, comme la parole, la trace de nos défauts, de nos grimaces. Il est pur, il est vraiment une atmosphère. Entre la pensée de l'auteur et la nôtre, il n'interpose pas ces éléments irréductibles, réfractaires à la pensée, de nos égoïsmes différents. Le langage même du livre est pur, si le livre mérite ce nom, rendu transparent par la pensée de l'auteur qui en a retiré tout ce qui n'était pas elle-même jusqu'à le rendre son image fidèle. Chaque phrase, au fond, ressemblant aux autres, car toutes sont dites par l'inflexion unique d'une personnalité. De là, une sorte de continuité que les rapports de la vie et ce qu'ils mêlent à la pensée d'éléments qui lui sont étrangers excluent et qui permet très vite de suivre la ligne même de la pensée de l'auteur, les traits de sa physionomie qui se reflètent dans ce calme miroir. Nous savons nous plaire tour à tour aux traits de chacun sans avoir besoin qu'ils soient admirables, car c'est un grand plaisir pour l'esprit de distinguer ces peintures profondes et d'aimer d'une amitié sans égoïsme, sans phrase, comme en soi-même. Un Gautier, simple bon garçon plein de goût, cela nous amuse de penser qu'on a pu le considérer comme le représentant de la perfection dans l'art, nous plaît ainsi. Nous ne nous exagérons pas sa puissance spirituelle, et dans son voyage en Espagne, où chaque phrase, sans qu'il s'en doute, accentue et poursuit le trait plein de grâce et de gaieté de sa personnalité, les mots se rangeant d'eux-mêmes pour la dessiner, parce que c'est elle qui les a choisis et disposés dans l'ordre. Nous ne pouvons nous empêcher de trouver, bien éloignés de l'art véritable, cette obligation à laquelle il croit devoir s'astreindre, de ne pas laisser une seule forme sans la décrire entièrement, en l'accompagnant d'une comparaison qui, n'étant née d'aucune impression agréable et forte, ne nous charme nullement. Nous ne pouvons qu'accuser la pitoyable sécheresse de son imagination quand il compare la campagne, avec ses cultures variées, à ses cartes de tailleur où sont collés les échantillons de pantalons et de gilets, et quand il dit que de Paris à Angoulême, il n'y a rien à admirer. Et nous sourions de ce gothique fervent qui n'a même pas pris la peine d'aller à Chartres visiter la cathédrale. Je regrette d'avoir passé par Chartres sans avoir pu voir la cathédrale. Voyage en Espagne, page 2. Mais quelle bonne humeur, quel goût! Comme nous le suivons volontiers dans ses aventures, ce compagnon plein d'entrain. Il est si sympathique que tout autour de lui nous le devient. Et après les quelques jours qu'il a passés auprès du commandant le barbier de Tinan, retenu par la tempête à bord de son beau vaisseau étincelant comme de l'or, nous sommes tristes qu'il ne nous dise plus un mot de cet aimable marin et nous le fasse quitter pour toujours, sans nous apprendre ce qu'il est devenu. Il devint, me dit-on, le célèbre amiral de Tinan, père de Madame Pechet de Tinan, dont le nom est resté cher aux artistes, et le grand-père du brillant capitaine de cavalerie. C'est lui aussi, je pense, qui, devant Gaète, assura quelque temps le ravitaillement et les communications de François II et de la reine de Naples. Voir Pierre de la Gorce, Histoire du Second Empire. Nous sentons bien que sa gaieté hâbleuse et ses mélancolies aussi sont chez lui des habitudes un peu débraillées de journaliste. Mais nous lui passons tout cela, nous faisons ce qu'il veut. Nous nous amusons quand il rentre trempé jusqu'aux os, mourant de faim et de sommeil. Et nous nous attristons quand il récapitule, avec une tristesse de feuilletoniste, les noms des hommes de sa génération morts avant l'heure. Nous disions à propos de lui que ses phrases dessinaient sa physionomie, mais sans qu'il s'en doutât. Car si les mots sont choisis, non par notre pensée selon les affinités de son essence, mais par notre désir de nous peindre. Il représente ce désir et ne nous représente pas. Fromentin, Musset, malgré tous leurs dons, parce qu'ils ont voulu laisser leur portrait à la postérité, l'ont peint fort médiocre. Encore nous intéresse-t-il infiniment, même par là, car leur échec est instructif. De sorte que, quand un livre n'est pas le miroir d'une individualité puissante, il est encore le miroir de défauts curieux de l'esprit. Penchés sur un livre de Fromentin ou sur un livre de Musset, nous apercevons au fond du premier ce qu'il y a de court et de niais dans une certaine distinction. Au fond du second, ce qu'il y a de vide dans l'éloquence. Si le goût des livres croît avec l'intelligence, ses dangers, nous l'avons vu, diminuent avec elle. Un esprit original sait subordonner la lecture à son activité personnelle. Elle n'est plus pour lui que la plus noble des distractions, la plus ennoblissante surtout, car seule la lecture et le savoir donnent les belles manières de l'esprit. La puissance de notre sensibilité et de notre intelligence, nous ne pouvons la développer qu'en nous-mêmes, dans les profondeurs de notre vie spirituelle. Mais c'est dans ce contrat avec les autres esprits qu'est la lecture que se fait l'éducation des façons de l'esprit. Les lettrés restent, malgré tout, comme les gens de qualité de l'intelligence, et ignorer certains livres, certaines particularités de la science littéraire, restera toujours, même chez un homme de génie, une marque de roture intellectuelle. La distinction et la noblesse consistent dans l'ordre de la pensée aussi, dans une sorte de franc-maçonnerie d'usage et dans un héritage de tradition. La distinction vraie, du reste, feint toujours de ne s'adresser qu'à des personnes distinguées qui connaissent les mêmes usages, et elle n'explique pas. Un livre d'Anatole France sous-entend une foule de connaissances érudites, renferme de perpétuelles allusions que le vulgaire n'y aperçoit pas et qui en font, en dehors de ses autres beautés, l'incomparable noblesse. Très vite, dans ce goût et ce divertissement de lire, la préférence des grands écrivains va aux livres des anciens. Ceux-mêmes qui parurent à leurs contemporains le plus romantique ne lisaient guère que les classiques. Dans la conversation de Victor Hugo, quand il parle de ses lectures, ce sont les noms de Molière, d'Horace, d'Ovide, de Regnard qui reviennent le plus souvent. Alphonse Daudet, le moins livresque des écrivains, dont l'œuvre, toute de modernité et de vie, semble avoir rejeté tout héritage classique, lisait, citait, commentait sans cesse Pascal, Montaigne, Diderot, Tacite. C'est pour cela sans doute que, souvent, quand un grand écrivain fait de la critique, il parle beaucoup des éditions qu'on donne d'ouvrages anciens et très peu des livres contemporains. Exemple, Les Lundis de Sainte-Beuve et La vie littéraire d'Anatole France. Mais tandis que M. Anatole France juge à merveille ses contemporains, on peut dire que Sainte-Beuve a méconnu tous les grands écrivains de son temps, et qu'on n'objecte pas qu'il était aveuglé par des haines personnelles. Après avoir incroyablement rabaissé le romancier chez Stendhal, il célèbre, en manière de compensation, la modestie, les procédés délicats de l'homme, comme s'il n'y avait rien d'autre de favorable à en dire. Cette cécité de Sainte-Beuve, en ce qui concerne son époque, contraste singulièrement avec ses prétentions à la clairvoyance, à la prescience. « Tout le monde est fort, dit-il dans Chateaubriand et son groupe littéraire, à prononcer sur Racine et Bossuet, mais la sagacité du juge, la perspicacité du critique, se prouve surtout sur des écrits neufs, non encore essayés du public. Juger à première vue, deviner, devancer, voilà le don critique. Combien peu le possède. On pourrait presque aller jusqu'à dire, renouvelant peut-être par cette interprétation d'ailleurs toute partielle, la vieille distinction entre classique et romantique, que ce sont les publics intelligents bien entendu, qui sont romantiques, tandis que les maîtres, même les maîtres dits romantiques, les maîtres préférés des publics romantiques, sont classiques. Remarque qui pourrait s'étendre à tous les arts. Le public va entendre la musique de M. Vincent d'Indy. M. Vincent d'Indy relit celle de Monsigny, et réciproquement. Les classiques n'ont pas de meilleurs commentateurs que les romantiques. Seuls, en effet, les romantiques savent lire les ouvrages classiques, parce qu'ils les lisent comme ils ont été écrits, romantiquement. Parce que, pour bien lire un poète ou un prosateur, il faut être soi-même, non pas érudit, mais poète ou prosateur. Cela est vrai pour les ouvrages les moins romantiques. Les beaux vers de Boileau, ce ne sont pas les professeurs de rhétorique qui nous les ont signalés, c'est Victor Hugo. Et dans Quatre mouchoirs de sa beauté salie, envoie au blanchisseur ses roses et ses lys. C'est M. Anatole France. L'ignorance et l'erreur à ses naissantes pièces, en habit de marquis, en robe de comtesse. le dernier numéro de la Renaissance latine, 15 mai 1905, me permet, au moment où je corrige ces épreuves, d'étendre, par un nouvel exemple, cette remarque aux Beaux-Arts. Elle nous montre, en effet, dans M. Rodin, article de M. Mauclair, le véritable commentateur de la statuaire grecque. Le public va aux expositions de M. Vuillard et de M. Maurice Denis, cependant que ceux-ci vont au Louvre. Cela tient sans doute à ce que cette pensée contemporaine que les écrivains et les artistes originaux rendent accessible et désirable au public fait, dans une certaine mesure, tellement partie d'eux-mêmes qu'une pensée différente les divertit mieux. Elle leur demande, pour qu'ils aillent à elle, plus d'efforts et leur donne aussi plus de plaisir. On aime toujours un peu à sortir de soi, à voyager, quand on lit. Mais il est une autre cause à laquelle je préfère, pour finir, attribuer cette prédilection des grands esprits pour les ouvrages anciens. C'est qu'ils n'ont pas seulement pour nous, comme les ouvrages contemporains, la beauté qui sut mettre l'esprit qui les créa. Ils en reçoivent une autre, plus émouvante encore, de ce que leur matière même, j'entends, la langue où ils furent écrits, est comme un miroir de la vie. Un peu du bonheur qu'on éprouve à se promener dans une ville comme Beaune, qui garde intact son hôpital du XVe siècle avec son puits, son lavoir, sa voûte de charpente lambrissée et peinte, son toit à haut pignon percé de lucarnes que couronnent de légers épis en plomb martelé. Toutes ces choses qu'une époque en disparaissant a comme oubliées là, toutes ces choses qui n'étaient qu'à elle, puisqu'aucune des époques qui l'ont suivie n'en a vu naître de pareille. On ressent encore un peu de ce bonheur aéré au milieu d'une tragédie de Racine ou d'un volume de Saint-Simon, car ils contiennent toutes les belles formes de langage abolies qui gardent le souvenir d'usages ou de façons de sentir qui n'existent plus. Traces persistantes du passé, à quoi rien du présent ne ressemble, et dont le temps, en passant sur elle, a pu seul embellir encore la couleur. Une tragédie de Racine, un volume des Mémoires de Saint-Simon, ressemblent à de belles choses qui ne se font plus. Le langage dans lequel ils ont été sculptés par de grands artistes, avec une liberté qui en fait briller la douceur, et saillir la force native, nous émeut comme la vue de certains marbres, aujourd'hui inusités, qu'employaient les ouvriers d'autrefois. Sans doute, dans tel de ces vieux édifices, la pierre a fidèlement gardé la pensée du sculpteur, mais aussi, grâce au sculpteur, la pierre, d'une espèce aujourd'hui inconnue, nous a été conservée, revêtue de toutes les couleurs qu'il a su tirer d'elle, faire apparaître, harmoniser. C'est bien la syntaxe vivante en France au XVIIe siècle, et en elle, des coutumes et un tour de pensée disparus, que nous aimons à trouver dans les vers de Racine. Ce sont les formes mêmes de cette syntaxe, mise à nu, respectée, embellie par son ciseau si franc et si délicat, qui nous émeuvent dans ces tours de langage familiers jusqu'à la singularité et jusqu'à l'audace, et dont nous voyons dans les morceaux les plus doux et les plus tendres passer comme un trait rapide ou revenir en arrière en belles lignes brisées le brusque dessin. Je crois par exemple que le charme qu'on a l'habitude de trouver à ces vers d'Andromaque, pourquoi l'assassiner? Qu'a-t-il fait? À quel titre? Qui te l'a dit? Vient précisément de ce que le lien habituel de la syntaxe est volontairement rompu. À quel titre se rapporte non pas à « qu'a-t-il fait ?» qui le précède immédiatement, mais à « pourquoi l'assassiner ?» Et « qui te l'a dit ?» se rapporte aussi à « assassiner ». on peut se rappelant un autre vers d'Andromaque, qui vous l'a dit, Seigneur, qu'il me méprise. Supposez que « qui te l'a dit » est pour « qui te l'a dit de l'assassiner ». Zigzag de l'expression, la ligne récurrente et brisée dont je parle ci-dessus, qui ne laisse pas d'obscurcir un peu le sens, si bien que j'ai entendu une grande actrice, plus soucieuse de la clarté du discours que de l'exactitude de la prosodie, dire carrément « Pourquoi l'assassiner? À quel titre? Qu'a-t-il fait ?» Les plus célèbres vers de Racine le sont en réalité parce qu'ils charment ainsi, par quelque audace familière de langage, jeté comme un pont hardi entre deux rives de douceur. « Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle ?» Et quel plaisir cause la belle rencontre de ces expressions, dont la simplicité presque commune donne au sens, comme à certains visages dans Mantegna, une si douce plénitude, de si belles couleurs. Et dans un fol amour, ma jeunesse embarquée, réunissons trois cœurs qui n'ont pu s'accorder. Et c'est pourquoi il convient de lire les écrivains classiques dans le texte et non de se contenter de morceaux choisis. Les pages illustres des écrivains sont souvent celles où cette contexture intime de leur langage est dissimulée par la beauté d'un caractère presque universel du morceau. Je ne crois pas que l'essence particulière de la musique de Gluck se trahisse autant dans tel air sublime que dans telle cadence de ses récitatifs, où l'harmonie est comme le son même de la voix de son génie, quand elle retombe sur une intonation involontaire où est marquée toute sa gravité naïve et sa distinction, chaque fois qu'on l'entend, pour ainsi dire, reprendre haleine. Qui a vu des photographies de Saint-Marc de Venise peut croire, et je ne parle pourtant que de l'extérieur du monument, qu'il a une idée de cette église à coupole, alors que c'est seulement en approchant, jusqu'à pouvoir les toucher avec la main, le rideau diapré de ses colonnes riantes, c'est seulement en voyant la puissance étrange et grave qui enroule des feuilles ou perche des oiseaux dans ces chapiteaux qu'on ne peut distinguer que de près, c'est seulement en ayant sur la place même l'impression de ce monument bas, tout en longueur de façade, avec ses mâts fleuris et son décor de fête, son aspect de palais d'exposition, qu'on sent éclater dans ses traits significatifs mais accessoires et qu'aucune photographie ne retient, sa véritable et complexe individualité. Ce sont ces formes révolues, prises à même la vie du passé, que nous allons visiter dans l'œuvre de Racine, comme dans une cité ancienne et demeurée intacte. Nous éprouvons devant elle la même émotion que devant ces formes abolies, elles aussi, de l'architecture, que nous ne pouvons plus admirer que dans les rares et magnifiques exemplaires que nous en a légué le passé qui les façonna, telles que les vieilles enceintes des villes, les donjons et les tours, les baptistères des églises, tels qu'auprès du cloître ou sous le charnier de l'être, le petit cimetière qui oublie au soleil, sous ses papillons et ses fleurs, la fontaine funéraire et la lanterne des morts. Bien plus, ce ne sont pas seulement les phrases qui dessinent à nos yeux les formes de l'âme ancienne. Entre les phrases, et je pense à des livres très antiques qui furent d'abord récités, dans l'intervalle qui les sépare, se tient encore aujourd'hui comme dans un hypogée inviolé remplissant les interstices, un silence bien des fois séculaire. Souvent, dans l'évangile de Saint-Luc, rencontrant les deux points qui l'interrompent avant chacun des morceaux presque en forme de cantique dont il est parsemé, j'ai entendu le silence du fidèle qui venait d'arrêter sa lecture à haute voix pour entonner les versets suivants comme un psaume qui lui rappelait les psaumes plus anciens de la Bible. Et Marie dit, Mon âme exalte le Seigneur et se réjouit en Dieu, mon Sauveur, etc. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a racheté, etc. » Il l'a reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. » À vrai dire, aucun témoignage positif ne me permet d'affirmer que dans ses lectures, le récitant chanta les sortes de psaumes que saint Luc a introduits dans son évangile. Mais il me semble que cela ressort suffisamment du rapprochement de différents passages de Renan et notamment de saint Paul. Pages 257 et suivantes, les apôtres pages 99 et 100, Marc Aurèle, pages 502-503. Ce silence remplissait encore la pose de la phrase qui, s'étant scindée pour l'enclore, en avait gardé la forme. Et plus d'une fois, tandis que je lisais, il m'apporta le parfum d'une rose que la brise entrant par la fenêtre ouverte avait répandue dans la salle haute où se tenait l'assemblée et qui ne s'était pas évaporée depuis 17 siècles. Que de fois, dans la Divine Comédie, dans Shakespeare, j'ai eu cette impression d'avoir devant moi, inséré dans l'heure présente, actuelle, un peu du passé, cette impression de rêve qu'on ressent à Venise sur la Piazzetta, devant ces deux colonnes de granit gris et rose qui portent sur leur chapiteau grec l'une le lion de Saint-Marc, l'autre Saint Théodore foulant aux pieds le crocodile. Belles étrangères venues d'Orient sur la mer qu'elles regardent au loin et qui vient mourir à leurs pieds et qui toutes deux, sans comprendre les propos échangés autour d'elles dans une langue qui n'est pas celle de leur pays, sur cette place publique où brille encore leur sourire distrait, continuent à attarder au milieu de nous leurs jours du 12e siècle qu'elles intercalent dans notre aujourd'hui. Oui, en pleine place publique, au milieu d'aujourd'hui, dont il interrompt à cet endroit l'Empire, un peu du 12e siècle, du 12e siècle depuis si longtemps enfui, se dresse en un double élan léger de granit rose. Tout autour, les jours actuels, les jours que nous vivons, circulent, se pressent en bourdonnant autour des colonnes, mais là, brusquement, s'arrêtent, fuient comme des abeilles repoussées, car elles ne sont pas dans le présent, ces hautes et fines enclaves du passé, mais dans un autre temps, où il est interdit au présent de pénétrer. Autour des colonnes roses, jaillis vers leurs larges chapiteaux, les jours actuels se pressent et bourdonnent. Mais, interposés entre eux, elles les écartent, réservant de toute leur mince épaisseur la place inviolable du passé. Du passé familièrement surgi au milieu du présent, avec cette couleur un peu irréelle des choses qu'une sorte d'illusion nous fait voir à quelques pas, et qui sont en réalité situées à bien des siècles, s'adressant dans tout son aspect un peu trop directement à l'esprit, l'exaltant un peu, comme on ne saurait s'en étonner, de la part du revenant d'un temps enseveli. Pourtant là, au milieu de nous, approchés, coudoyés, palpés, immobiles, au soleil.